Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h33, l'heure du débat des grandes voix avec ce soir à mes côtés Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
On débute ces grandes voix aux États-Unis. On vous emmène aux États-Unis ce soir où le président Donald Trump annoncera ce samedi sa candidate à la Cour suprême pour remplacer la démocrate Ruth Bader Ginsburg, qui est décédée il y a quelques jours. Elle était la doyenne progressiste et féministe. C'est une nomination capitale pour l'avenir de l'Amérique, on va en parler, car ce sont ces 9 juges qui décident du visage de la société américaine, la peine de mort par exemple, le port d'armes ou encore le droit à l'avortement. Le président Donald Trump.
J'aimerais un vote de confirmation avant l'élection, a dit le président. Il restera beaucoup de temps. Après, c'est à Mitch de jouer. Et Mitch, c'est Mitch McConnell, le patron du Sénat, sur la même longueur d'onde que le président. Il est prêt à dégainer.
Réponse donc samedi. Et pour l'instant, 2 candidats tiennent la corde, ou plutôt 2 candidates. Ce sont 2 femmes républicaines, pure sucre, ultra-conservatrices. Amy Coney Barrett, mère de 7 enfants, fervente catholique, et Barbara Lagoa, proche de la Federal Society, c'est une organisation juridique des plus conservatrices. Ça chauffe aux États-Unis, Gérard Carrérou.
Ça chauffe parce que c'est un peu la divine surprise. Ce qui est arrivé avec le décès de Madame Ginsburg, qui était une très honorable dame de 87 ans, qui était donc la doyenne de la Cour suprême. C'est un peu son décès, même s'il a versé quelques larmes de crocodile, c'est un peu une divine surprise pour Donald Trump. Parce que ça lui donne l'occasion formidable de nommer. Il a déjà une majorité conservatrice à cette institution.
Mais courte.
Oui, courte. C'est une majorité de 5 à 4. Ils sont 9. Oui. 5-4. Et là, s'il peut passer quelqu'un comme les deux, l'une ou l'autre, ou un troisième,
Il a dit que ce serait une femme.
Il a dit que c'était une femme. Donc l'une ou l'autre, ou une troisième, ça ferait passer la majorité à 6-3. Et effectivement, on ne se rend pas assez compte en France, parce qu'on parle, nous, de notre Conseil constitutionnel. Mais ça n'a rien à voir. Enfin, c'est, je dirais, le Conseil constitutionnel, avec tout le respect qu'on lui doit, à lui, à ses membres et à son président, c'est une pâle copie de la puissance de ce qu'est la Cour suprême aux États-Unis. Oui. La Cour suprême, c'est un pouvoir qui parle d'égal à égal avec le président des États-Unis et qui, sur tous les problèmes de société, vous en avez cité 2 ou 3, hein, mais il y en a d'autres, sur tous ces grands problèmes de société, les armes, la peine de mort,
et,
les problèmes...
Et ils ont, comme on dit aux États-Unis, le final cut. C'est-à-dire
oui,
que ceux qui décident à la fin...
Ils ont absolument la décision finale. Donc, à partir du moment où on a une majorité dans cette institution, on peut effectivement faire passer des choses importantes. Oui. Et en plus, ce sont des gens qui vont... Alors ça fait un peu sourire aussi. C'est des gens qui sont nommés jusqu'à la mort. C'est pour ça que Madame, en l'occurrence Ginsburg, avait 87 ans, mais il y en a qui sont morts à 95 ans.
Oui.
Et on peut imaginer un jour qu'il y en aura un qui ira jusqu'à 100 ans à la Cour suprême.
Alors, Charles Villeneuve, c'est vrai que si cette nomination, Gérard le disait, se confirme, hein, la Cour suprême passera donc à droite toute, à droite même, droite ultra-conservatrice, il n'y aura plus que 3 progressistes contre 6 conservateurs, ce qui ne va pas arranger évidemment la guerre culturelle qui agite quand même en ce moment les États-Unis et qui crée une ligne de fracture entre les démocrates et les républicains.
Mais parmi tous les débats de société que vous avez cités, ce qui me paraît moins névralgique dans le choix notamment du président Donald Trump,
c'est l'avortement,
le droit à l'avortement. Parce que toute la base électorale du Parti républicain est quand même composée d'évangélistes et de catholiques, et la majorité refuse ce droit à l'avortement, comme ils étaient assez récalcitrants au mariage homosexuel, oui, que la Cour suprême des États-Unis avait d'ailleurs autorisé. Et dans le choix qu'il a, moi je pense que, et je pense que Gérard, qui est un américanologue distingué, je pense qu'il choisirait, enfin il me semble qu'il choisira plutôt la magistrate de la Cour suprême de Floride qui est d'origine cubaine.
Oui.
Parce que le vote hispanique, le vote hispanique est très pèse lourd, et notamment dans un État qui est clé dans l'élection américaine, c'est-à-dire la Floride.
La Floride, oui.
Et vous avez pu remarquer d'ailleurs, ce qui me fait dire ça aussi, c'est que dernièrement, vous avez vu que Porto Rico était en déroute financière complète. Il a décidé de renflouer justement les caisses de Porto Rico. Or, les Porto-Ricains pèsent lourd aussi dans le vote en Floride. Et donc, il me semble que ce sera sans doute, non pas la mère de famille nombreuse de cet enfant, Madame Barrette, mais plutôt l'AGOA.
Oui. Enfin, mais la bataille n'est pas jouée, peut-être on n'a pas dit quand même. Ce n'est pas joué parce qu'il faut ratifier. Il peut samedi, donc, nommer l'une de ses femmes.
C'est la raison pour laquelle il veut aller vite, d'ailleurs.
Il veut aller vite, mais il faut qu'il ait la majorité au Sénat. Or, au Sénat, il a effectivement une courte majorité. Il a 53 sièges républicains et il faut qu'il en ait au moins 51 pour passer. Donc, s'il y a déjà,
les démocrates sont à 47,
il y a déjà deux défections.
Rappelez, Gérard Carrérou, que s'il veut aller si vite, c'est parce que la Cour suprême pourrait être amenée à arbitrer l'issue du scrutin présidentiel qui se joue le 3 novembre prochain.
Absolument, dans 40 jours.
C'est ça aussi l'enjeu de cette nomination.
Bien sûr, parce que déjà, lors d'une élection serrée entre George Bush et son adversaire, je cherche qui était l'écologiste, enfin, qui était de... je ne me souviens plus de son nom, peu importe. Mais déjà, il y avait eu une décision de la
c'était
Cour suprême.
C'était le vice-président, absolument.
Mais donc, il y avait eu pendant plusieurs jours des tractations, et c'est finalement la Cour suprême qui avait décidé. Oui. Là, si l'élection se joue, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on n'en a pas dit non plus un mot, mais aujourd'hui, Trump est à peu près à 50-50. Oui. Il est à 50-50. Il était battu en juin. Il a repris du poil de la bête un petit peu depuis. Il est à 50-50. Ça va être serré. Et si c'était si serré que ça, la Cour suprême décidera. Et c'est elle qui fera le roi.
Oui. Et on en parle après la publicité dans quelques secondes. On continue d'en parler. 18h40, à tout de suite avec les grandes voix.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h42, on est toujours ensemble en direct dans le studio d'Europe Soir avec les grandes voix Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Et on parle de cette nomination à la Cour suprême qui est attendue par Donald Trump samedi. C'est un enjeu majeur pour l'avenir de l'Amérique à quelques jours seulement de l'élection américaine. Alors on a fait marcher nos mémoires et ça y est, on a retrouvé, je dis à nos auditeurs et à nos auditrices, le nom de l'ancien candidat démocrate à la présidentielle, c'est bien sûr Al Gore, vous l'aurez reconnu. Charles Villeneuve, je voudrais qu'on revienne quand même sur ce qui se passe aux États-Unis et sur ce que cette nomination, d'une certaine manière, raconte de cette fracture qui grandit aux États-Unis avec les républicains. Alors, il y a toujours eu une opposition entre les républicains et les démocrates, évidemment, mais on a l'impression aujourd'hui que les deux camps non seulement s'opposent, mais se détestent, se haïssent. Les républicains sont devenus le parti des blancs âgés, ruraux, chrétiens, alors que les démocrates sont plus métissés, jeunes, urbains, avec pour boussole deux mondes médiatiques aussi distincts. Fox News d'un côté, CNN de l'autre. On a l'impression d'une Amérique irréconciliable, avec des hommes armés dans les rues, d'ailleurs dans les deux camps, des milices d'extrême droite, des milices Black Lives Matter, qui défendent certains quartiers. L'Amérique est sur un volcan.
Oui, c'est inquiétant, là, le tableau que vous venez de dresser, parce que vous savez, en général, il y a un décalage entre la France et l'Amérique qui est jugé entre 7 et 10 ans.
C'est vrai.
C'est en général la reproduction de tous les événements de société qui se déroulent aux États-Unis. Nous les avons en Europe quasiment à entre 8 et 10 ans.
À ceci près qu'on n'a pas la libéralisation des armes, ce qui peut peut-être changer notre rapport
à
l'autodéfense.
Oui, mais enfin, quand on voit, si vous voulez, l'exhibition, notamment dans un certain nombre de quartiers qui n'obéissent plus ou très peu, si vous voulez, aux lois de la République, l'armement sort facilement aussi.
Oui. Hein,
rappelez-vous la fameuse vidéo qui a provoqué tant de polémiques entre le maire de Grenoble et le ministre de l'Intérieur. Non mais, ce qui est intéressant dans cette division importante, il ne faut pas oublier que, tout à l'heure, Gérard disait c'est une divine surprise. Oui, moi je dirais que c'est une aubaine formidable pour lui, pour lui permettre de reprendre la main. D'autant qu'il y a, à cause de la crise sanitaire qu'il a quand même très mal gérée et qui a effrité une partie de la base électorale des républicains, notamment les hispaniques,
oui,
qui ont été assez déçus de la manière dont il a, si vous voulez, géré cette crise sanitaire, le président de la République, c'est que beaucoup d'Américains, compte tenu de cette crise sanitaire, de son extension, qui est toujours assez vive, vote par correspondance. Et donc, les litiges vont être assez nombreux. Il va falloir trancher et c'est la Cour suprême qui tranchera. C'est la raison pour laquelle il nommera, il en a le droit. Et j'ai vu que madame la juge qui vient de décéder de 87 ans, qui était une progressiste très, très marquée et qui était un personnage quasiment historique du droit américain, avait dit à sa petite-fille qu'il valait mieux qu'il attende l'élection du nouveau président. Or, en juillet, j'ai la citation, en juillet 2016, la même Ruth Bader Ginsburg a déclaré que le président des États-Unis était président des États-Unis jusqu'au bout de son mandat et qu'il avait parfaitement le droit de nommer une juge ou une juge de remplacement.
Oui.
Bon, et c'est ce qui va se passer. Et vous ne pensez pas qu'il va reculer malgré toutes les divisions que vous avez pu décrire. Et c'est vrai qu'elles sont importantes et nombreuses. Alors, et que la crise sanitaire n'a rien arrangé.
Oui. Une dernière question, Gérard Carrérou, et puis après on passera à la politique française pour avancer en écho à ce que disait Charles Villeneuve. 59% des Américains n'ont pas confiance aujourd'hui dans le processus électoral, c'est ce qui ressort d'un sondage. Que se passera-t-il si, par exemple, au soir du 3 novembre, les premiers résultats donnent le président sortant, donc Trump, en tête, parce que les électeurs conservateurs se sont rendus aux urnes, mais que, comme ça arrive parfois aux États-Unis, quelques jours, quelques semaines plus tard, eh ben, finalement, on s'aperçoit que c'est Biden qui a gagné.
Mais on ne s'apercevra pas que Biden a gagné. On s'apercevra peut-être, comme la dernière fois, qu'on peut être élu président des États-Unis avec 3 millions de voix de moins que son adversaire. Et là, il est tout à fait possible qu'on ait des contentieux. Mais ce qui va compter, ce n'est pas que l'un ou l'autre ait le maximum de voix des suffrages populaires. Oui. Ce qui va compter, c'est le nombre des grands électeurs. Voilà. On va compter, comme chaque fois, les grands électeurs.
Mais vous comprenez Trump, ma question. Est-ce que Trump est en capacité de renier les résultats de l'élection?
Oui, il ne va pas les contester. Il va y avoir des recours. Il y en avait donc en 2000, dans l'élection de 2000, il y a eu des recours. C'est pour ça que ça a duré plusieurs jours. Mais il va y avoir des recours d'avocats. Mais je ne pense pas qu'il... Certains disent qu'il n'acceptera pas le résultat des élections.
Oui.
Si le résultat est effectivement clair, oui. il l'acceptera. Mais ce que je voulais ajouter à ce qu'a dit Charles tout à l'heure, c'est que vous avez parlé de cette division de l'Amérique. Jamais l'Amérique n'a été aussi divisée. C'est une fracture. Moi, ça fait 40 ans que je vais en Amérique tous les ans. L'Amérique est là, elle s'est radicalisée des deux côtés. Vous avez une droite dure que Trump incarne très bien, une droite dure blanche, et vous avez une gauche qui s'est radicalisée, où les nouveaux élus de la gauche lors des élections intermédiaires sont tous des gens plus jeunes,
oui.
représentant davantage les minorités, oui. hispaniques, noires, etc., et beaucoup plus à gauche. Donc c'est la droite-droite contre la gauche-gauche.
Bien.
Alors que l'Amérique, d'habitude, c'était plutôt le centre-droit contre le centre-gauche.
Bien, et on aura l'occasion, évidemment, d'y revenir d'ici à cette élection où beaucoup de suspense demeure. Le 3 novembre, dans la journée du 3 novembre, on aura les premiers résultats. 18h47, on parle de politique dans quelques secondes. Il y a du rififi chez En Marche. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h51, dernière partie du grand débat des grandes voix avec Charles Villeneuve, Gérard Carrérou. Et on parle maintenant de la politique. Que se passe-t-il au sein du parti présidentiel? C'est la Bérézina depuis 48 heures après le départ du numéro 2, Pierre Person. C'est Sacha Houlier, la députée de la Vienne, et Aurore Berger, l'ancienne porte-parole, qui ont décidé de claquer la porte. Marlène Schiappa admet une sortie de route, une sortie de crise, une sorte de crise de croissance. Force est de constater que rien ne va plus. Sophie Cluzel, secrétaire d'État en charge des personnes handicapées, s'est exprimée sur le sujet.
Comme tout jeune parti, il traverse un peu une crise d'adolescence. C'est normal, c'est un parti qui a 3 ans, hein, donc très jeune parti avec beaucoup de diversité qui s'exprime. Donc je pense que cette crise d'adolescence, il faut qu'elle se stabilise et qu'on avance.
Voilà, rien ne va plus à La République En Marche.
Elle est en panne, La République En Marche, hein. Elle est en panne, quoi. C'est ça le problème. Et ce n'est pas une crise d'adolescence, comme le dit gentiment notre interlocutrice, là,
Sophie Cluzel.
On sent que ce sont les éléments de langage.
C'est l'impossibilité pour le président de la République, élu, et Dieu sait pourtant, avec une confortable majorité politique au moment de la présidentielle, c'est l'impossibilité de construire un parti. On a dit les vieux partis sont moribonds, c'est un peu vrai pour le Parti Socialiste, c'est un peu vrai pour LR, mais le Parti En Marche, non, il est mort-né aujourd'hui.
Oui.
Il est mort-né. On l'a vu au moment des élections municipales, et surtout, on l'a vu là au moment des élections partielles. Vous savez, autrefois, les élections partielles,
c'était une machine formidable pour l'accession au pouvoir d'Emmanuel Macron.
C'est pas tellement ça. Non, c'est pas tellement ça.
Les marcheurs, vous vous souvenez, on les appelait les marcheurs.
Mais c'était pas un parti, justement.
Oui.
Justement, c'est pour
un mouvement.
Ça. C'était un mouvement sur des volontés formidables avec des animateurs de haute qualité. La preuve, c'est que le président a été élu, mais ce n'était pas une équipe pour effectivement constituer un parti politique. Ils ont échoué complètement dans la tâche de construction d'un parti politique.
C'est la fin de l'utopie politique du Nouveau Monde, parce que c'est vrai que ce qu'on vient d'entendre, et puis ce qui s'est passé là depuis 48 heures avec un bureau politique qui prend des airs de bureau politique comme on avait l'habitude de les vivre avec le Parti Socialiste et l'UMP, c'est la fin d'un Nouveau Monde, du Nouveau Monde même, Charles Villeneuve.
Écoutez, l'ancien monde était occupé par un nombre de partis politiques. Je ne vais pas remonter, si vous voulez, à la SFIO, puis ensuite au Parti Socialiste.
Ou voilà, même, vous allez me perdre, parce que moi, je n'ai pas connu.
Ou même, si vous voulez, à l'UNR, qui était annonciateur du RPR.
Oui.
Mais il y avait, comme vient de le dire d'ailleurs tous les deux, aussi bien Julien que Gérard Carrérou, il y avait des personnages, il y avait une équipe. Je ne vais pas les citer tous, mais derrière François Mitterrand, il y avait une équipe de costauds, indéniablement. Derrière Valéry Giscard d'Estaing, il y avait une équipe extrêmement ancrée dans les territoires. Mais la meilleure preuve, l'indice matériel, si vous voulez, si nous étions des magistrats, on cherche non pas l'intime conviction, mais les indices matériels. C'est très simple. Nous sommes à 6 mois des régionales et des départementales. Quels sont les candidats d'En Marche ? Il n'y en a pas. Quelle est la doctrine macronienne ? Il n'y en a pas. Est-ce que finalement, La République En Marche ne tient au fait que c'était une machine électorale pour faire gagner un homme qui avait fait une analyse parfaitement ajustée.
Mais d'où ma question, Charles Villeneuve. Est-ce qu'il peut remporter une seconde fois l'élection présidentielle, Emmanuel Macron, et se maintenir à l'Élysée avec un parti à terre ?
Oui, un parti à terre, mais une équipe, notamment gouvernementale, de l'exécutif, où il va puiser en permanence dans la réserve des Républicains. Et c'est bien le problème des Républicains. Premier ministre Édouard Philippe, oui. Républicain. Deuxième Premier ministre Jean Castex, Républicain. Et tous les ministères clés, ceux dont on dit qu'ils sont régaliens, c'est-à-dire qu'ils pèsent lourd, c'est vrai pour le ministère de l'Intérieur, Darmanin, maire de Tourcoing, ancré dans les territoires républicains, évidemment, oui. Qu'il a quitté. Mais la même chose, ministre de l'Économie, des Finances, du Budget, Bruno Le Maire, ancré en Haute-Normandie, à Évreux.
Oui, parce que
vous n'avez pas l'équivalent.
C'est vrai, vous avez raison. Avec un peu de malice, je pourrais dire que les partis républicains ne vont pas l'aider à accéder à l'Élysée, puisqu'ils sont bien décidés à proposer leur propre candidat. Gérard Carrérou,
oui,
pour terminer...
Question, je vais répondre juste à votre question. Peut-on être réélu quand même ? Oui, la réponse est oui. Il a quand même
un
acquis.
Il l'a fait une fois, il peut le faire deux fois.
Il le fera différemment. Mais je veux dire, ce n'est pas rédhibitoire le fait d'avoir échoué, ce que j'ai dit il y a 2 minutes, c'est-à-dire la construction d'un parti politique qui le soutienne, ne peut pas l'empêcher totalement d'être réélu. Il le fera autrement. Il a de la ressource. C'est un homme qui est, je dirais, comme pas mal d'autres hommes politiques que nous avons connus, il est peut-être meilleur pour conquérir le pouvoir que pour l'exercer.
Oui, mais il y a quand même,
le mot de la
si
fin,
vous voulez,
Charles Villeneuve.
Ça dépend en partie, et moi je dirais en petite partie de lui, tout dépend des effets, des conséquences de la crise sanitaire. Si la crise sociale et économique est incomparablement forte, je me demande même s'il sera à l'arrivée des candidatures.
Bien, merci messieurs des Grandes Voix, merci.
Europe 1, Julien Bugy.